L'une des armes du néolibéralisme consiste à déclarer la guerre à l'imagination en faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on est parvenu à la fin de l'histoire. Naomi Klein, Dire non ne suffit plus, Actes Sud, 2017. Pour parvenir à un changement aussi systémique que celui dont on a besoin, c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est d'abord la combinaison de nouveaux récits qui émergent, c'est-à-dire de gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est. On ne peut pas entraîner les gens dans une direction si on ne leur brosse pas un tableau de l'avenir, si on n'est pas capable d'imaginer ce que ce monde pourrait être. Cyril Dion, dans « À l'air libre », Mediapart, mai 2022. Parler d'écologie, c'est finalement parler de droits fondamentaux, de biens communs, d'égalité, de solidarité et d'intérêt général. Corinne Morel-Darleux, L'écologie, un combat pour l'émancipation, graphique 2009. Introduction générale. Phénomène étrange. Les grains du sablier semblent s'écouler plus rapidement. Le temps nous file entre les doigts. Rendons-nous à la raison. C'est une véritable course contre la montre à laquelle nous nous livrons. À l'heure où nous finalisons ces lignes, un épisode caniculaire a secoué la France pendant plusieurs jours, battant des records de température pour un mois de juin. Événement non anodin, puisqu'il a succédé à une sécheresse hivernale et de la grêle début juin, qui ont ruiné une bonne partie des récoltes en France, mais aussi à des dômes d'ultra-chaleur en Inde et Pakistan, des méga-feux aux États-Unis, des chutes de neige au Mexique. Nous sommes en 2022, le changement climatique, en Île-de-France comme partout dans le monde, est visible dès à présent. Nous le sentons déjà dans notre chair. Fort de son rôle d'acteur incontournable de la mobilisation climat depuis 2015, organisation des marches pour le climat, action de désobéissance civile de masse, campagne de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, dénonciation des premiers responsables du changement climatique, Alternative à Paris s'est de plus en plus questionnée sur son rapport au territoire. La ville capitale d'abord, dont les frontières sont physiquement poreuses et socialement marquées, l'Île-de-France ensuite, comme une revendication que les solutions se trouvent aussi en dehors du périph', bien loin des lieux de pouvoir politique, économique, des regards des caméras. Car paradoxalement, la lutte contre le changement climatique n'est pas une lutte contre. Nous luttons pour le droit à une eau saine, à l'éducation, à des salaires décents, à la santé. Nous luttons pour un monde plus juste, plus digne, plus égalitaire. En cela, nous souhaitons contribuer à construire un territoire résilient, capable d'adapter ses modes de vie aux catastrophes et aux épisodes climatiques de plus en plus nombreux, en ne laissant personne de côté. En 2015, à Paris, la France accueillait la COP21, cette conférence des parties sur le climat sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. La signature de l'accord de Paris a fait émerger un immense espoir. Nous allions diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour rester en deçà des plus 2 degrés de réchauffement. En deçà des 1,5 degrés si possible, et tant pis pour les États insulaires que l'on condamnait déjà dans le texte à disparaître de la carte, et contribuer à l'atténuation du dérèglement climatique. Pour la France, cela signifie que l'empreinte carbone moyenne des Français et Françaises doit baisser d'environ 80% d'ici 2050 pour parvenir aux 2 tonnes de CO2 équivalent par an inscrits dans cet accord. Force est de constater que, 7 ans après, nous en sommes bien loin. La France a été condamnée par 2 fois pour inaction climatique, en 2020 et 2021, et les émissions de gaz à effet de serre sont bel et bien reparties à la hausse. Rappelons-nous que, comme les scientifiques du GIEC s'évertuent à le répéter, le changement climatique est dû à un ensemble de facteurs, tous issus de l'activité humaine, qui impactent directement l'atmosphère, la qualité de l'air, la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi la capacité de la Terre à absorber les dites activités. Par ailleurs, pour reprendre des termes d'Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques, le changement climatique est un des symptômes les plus graves du dépassement des limites planétaires dû au modèle de société propre au capitalisme néolibéral qui transforme le vivant en déchets. La pollution des cours d'eau et des terres rendue infertile de trop d'intrants, l'extinction d'espèces à une vitesse délirante, la parcellisation, quand ce n'est pas l'élimination totale, d'espaces de forêt ou de nature vierge, sont autant de causes et de conséquences du réchauffement climatique. Lutter pour le climat, c'est donc lutter pour tout le vivant. C'est changer de paradigme. C'est considérer que la santé planétaire doit primer sur les intérêts privés de quelques puissants qui croient au ruissellement comme en une doctrine inaltérable. Toute société fonctionne sur des récits, des fictions qu'elle choisit. Actuellement, le modèle sur lequel nos sociétés modernes fonctionnent, tant bien que mal et plutôt mal que bien, repose sur une fiction, le capitalisme néolibéral, que nous avons pris pour une réalité indépassable. Comme établi notamment par un grand nombre de penseurs et penseuses contemporains et contemporaines, cette fiction a pour présupposé premier que les libertés passent par le droit de propriété individuelle. Il en résulte que l'accaparement des terres, des biens, de toutes choses, est un concept fondateur de ce récit. L'abondance, toujours plus de biens, promise par le capitalisme, procède donc forcément d'extractivisme. Philippe Descola le dit bien, le capitalisme a besoin de ce soubassement qu'il appelle naturalisme, c'est-à-dire cette distinction nette entre les humains et les non-humains, la position au surplomb des humains vis-à-vis de la nature, qui permet de considérer celle-ci principalement comme un réservoir de ressources gratuites à exploiter. Ainsi, derrière le récit d'un système qui fonctionne, par création de biens communs grâce à la recherche de maximisation des intérêts particuliers, le système de valeurs sur lequel repose cette fiction implique un rapport à la nature différencié. L'humain est à part de la nature et la domine, la possède. Les racines du capitalisme supposent notamment une échelle de valeurs entre les êtres qui perdure en filigrane jusqu'à aujourd'hui. Tout en haut de cette hiérarchie, on trouve les méritants. En général, des hommes blancs, valides, cisgenres, relativement âgés, mais pas trop non plus, disposant d'un capital culturel et économique élevé. La promesse illusoire du capitalisme de récompenser les plus méritants, les plus valeureux, les plus entreprenants, les plus courageux, en bref, les plus forts, légitime l'exploitation des plus vulnérables, des moins dotés en capital, par les « premiers de cordée ». Elle entraîne ainsi une logique extractiviste, productiviste, utilitariste, patriarcale et colonialiste. Dans cette logique, on se pose régulièrement la question du « peut-on ?» et rarement la question du « devrait-on » Peut-on exploiter les océans alors que cet écosystème est extrêmement fragile et que le réchauffement de l'eau accentue cette fragilité? Oui. Fort de sa stratégie France 2030 pour redonner à la France une place économique de premier plan, Emmanuel Macron annonçait en octobre 2021 l'exploration des grands fonds marins avant de revenir sur ses mots à l'été 2022, sans qu'aucune garantie concrète n'ait été donnée pour préserver les fonds marins durablement. Le devrait-on ? Au regard de l'intérêt de la biodiversité marine et par extension de la santé des humains sur le long terme, non. Peut-on organiser l'activité économique nécessaire à la société sur la base de contrats de subordination qui s'imposent au plus grand nombre, dont les contraintes temporelles sont de plus en plus souvent incompatibles avec une vie personnelle et familiale de qualité pour maximiser les profits des entreprises au bénéfice d'une poignée d'actionnaires ? Oui, c'est bien ce qui se produit depuis des décennies. Que le marché du travail rémunère mal les métiers les plus féminisés et dégrade la valeur sociale de ceux qui se féminisent, contraignant fréquemment les foyers à favoriser les carrières des hommes au détriment de celles des femmes, ne semble pas importer. Que cela suppose que les charges mentales, émotionnelles et logistiques des foyers reposent à 99% sur les femmes, ne semble pas importer. Que cela suppose qu'une partie de la population ne puisse pas subvenir à ses besoins immédiats, ne semble pas importer. Alors le devrait-on ? D'après la logique capitaliste, oui. Mais nous souhaitons proposer une autre logique. Les fictions représentent des choix de société relevant d'un grand nombre de critères. Un récit structurant d'une société n'est pas composé que de sa thèse et de son antithèse. Autrement dit, pour sortir du capitalisme néolibéral, il n'y a pas qu'une seule option, peu enviable, contrairement au discours défendu par celles qui tirent avantage de ce récit. Cessons de croire que les fictions sont binaires. Aujourd'hui, les premiers et premières concernés par le changement climatique sont les populations marginalisées, les minorités et, de manière plus générale, toutes celles qui ne sont pas en haut de la hiérarchie précédemment évoquée. Les quartiers populaires sont ceux qui disposent le moins d'espaces verts et souffrent le plus de canicules. C'est aussi là que les femmes exercent les métiers les plus précaires et mal payés, que les inégalités raciales et sociales sont les plus vives. Les personnes aux revenus les plus faibles sont celles qui peuvent le moins facilement voyager, fuir un espace impacté par une catastrophe naturelle. En France, les personnes issues des milieux et quartiers populaires subissent la crise climatique de plein fouet, aussi en raison des migrations et des liens entre les habitants et habitantes des quartiers populaires et les pays dits du Sud. Lors d'une conférence organisée à Vert-Dragon sur le thème « Social climat, reprendre en main nos vies », Assa Traoré, porte-parole du mouvement « Vérité et justice pour Adama Traoré », expliquait. On parle beaucoup des quartiers populaires, car la question climatique nous touche de plein fouet. Quand on parle de situation climatique à Bagnolet, ça veut dire qu'elle a déjà débordé ailleurs, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Nos comportements ici, en France, ont une répercussion sur les populations très pauvres en Afrique. Et quand ça touche les populations pauvres en Afrique, ça touche les familles françaises qui doivent envoyer plus d'argent pour acheter des sacs de mil, des sacs de maïs, des sacs de riz, pour que leurs proches puissent se nourrir. C'est de l'argent qui sort du portefeuille des Français et Françaises pour nourrir la grand-mère qui est restée derrière, la sœur, le père. L'histoire l'a montré. Les femmes sont les premières victimes lorsque la société se tend et devient plus violente. Et ces cas de figure sont d'autant plus probables que les ressources mondiales vont s'amenuiser. Dans un mouvement parallèle, les personnes qui souffrent aujourd'hui d'inégalités parce qu'elles ne sont pas de nationalité française, parce qu'elles sont racisées, parce que leur genre ou son expression n'est pas considéré ou respecté, parce qu'elles ont un handicap, toutes ces personnes en souffrent, non par nature, mais parce que leurs voix et leurs besoins sont négligés, et parce que le capitalisme et l'économie néolibérale considèrent qu'accaparer en vue de comptabiliser, chiffrer, pour ensuite extraire, exploiter, utiliser, importe plus que le bien-être des personnes. C'est pour ces raisons que la justice sociale et fiscale est indissociable de la justice climatique. C'est pour cette raison que la lutte contre le patriarcat et le colonialisme sont des évidences dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout le sens de l'écologie décoloniale et de l'écoféminisme. Le système produit différentes oppressions suivant la même logique, par exemple en accaparant les ressources de la terre et les corps des femmes dont il serait propriétaire. On notera aussi avec Kim Van Dalin, auteur d'une étude sur ce sujet, que des événements extrêmes ne provoquent pas de la violence sexiste en eux-mêmes, mais ils exacerbent les moteurs de la violence et créent des environnements qui normalisent ce type de comportement. Prenons l'exemple des pipelines construits aux États-Unis. Lorsqu'un pipeline est construit sur une terre autochtone, faisant d'ailleurs fi des lois en la matière, les cohortes de travailleurs mal payés entraînent une augmentation du viol et du meurtre des femmes autochtones. Dans le même mouvement, les terres et les eaux sont souillées par des produits toxiques, affectant irrémédiablement l'environnement et toute son importance matérielle et spirituelle pour les communautés, et niant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les femmes subissent encore ces pollutions dans leur chair, avec des conséquences dramatiques sur leur fertilité et les naissances. Plus proche de nous, on peut aussi penser au projet climaticide, aux enjeux sociaux dramatiques de l'entreprise française Total Energy, ICOP, qui prévoit la construction du plus grand oléoduc chauffé au monde entre l'Ouganda et la Tanzanie. Si l'adversaire est le même, les victimes sont nombreuses. C'est pourquoi nous défendons une écologie proprement populaire. Seul ce prisme peut permettre l'avènement d'une société soutenable et résiliente. Partant de ce constat général, comment définir cet autre monde que nous appelons de nos vœux ? C'est tout l'enjeu de cet exercice auquel nous nous sommes prêtés en Île-de-France. Notre intention était de décrire notre vision d'une région dans laquelle les habitants et habitantes ont réduit drastiquement leur empreinte carbone et où la moyenne annuelle d'émissions de gaz à effet de serre respecte le budget de 2 tonnes par personne inscrit dans l'accord de Paris de 2015. Une région dans laquelle les modes de production, de consommation et de sociabilité respectent la vie de tous les êtres humains et des non-humains et favorisent la régénération des écosystèmes et du vivant. Une région dans laquelle chacun et chacune se sent respecté dans ses droits fondamentaux et sa singularité. Une région dans laquelle les êtres humains se sentent heureux d'habiter et suffisamment sereins pour affronter les aléas de l'existence et les crises climatiques et environnementales. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement sur nos modes de vie et notre culture? Quelle sera la vie quotidienne des habitants et habitantes d'une région qui aura réussi à appliquer ces grands principes? C'est à ce travail d'imagination que s'est attelé le groupe d'Alternatiba Paris, Paris Demain, dont le terrain d'exploration est très vite passé, comme nous le disions, à l'Île-de-France. Après avoir réalisé un état des lieux approfondi de l'Île-de-France en 2021, sur les thématiques de l'énergie, des transports, du logement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation, nous avons prolongé nos recherches au-delà des données techniques, en allant explorer des textes d'historiens et historiennes, de psychologues, de sociologues, de philosophes, d'urbanistes et d'architectes, mais aussi en allant à la découverte des acteurs et actrices qui agissent déjà sur leur territoire. Grâce à elles et eux, nous nous sommes projetés dans le monde de demain, en tenant compte des expériences du passé, de l'éclairage de l'histoire et de la complexité des sociétés humaines. Nous avons construit notre vision en nous inspirant de l'extraordinaire inventivité de celles et ceux qui proposent d'autres manières de faire société. Nous avons choisi de raconter ce que pourrait être l'Île-de-France demain, en 2040-2050, sur le mode du récit. Sachant que l'attention est actuellement une ressource rare, nous avons souhaité rendre le texte accessible au plus grand nombre, en réduisant au maximum sa longueur. Nous aurions cependant pu ajouter plusieurs pages grâce à toutes les alternatives franciliennes que nous avons répertoriées au cours de nos travaux et qui illustrent de manière concrète chaque point abordé dans le livre. Cela démontre que le monde de demain auquel nous aspirons est déjà en train de se construire. Au fond, les prémices du travail à mener sont déjà là, à côté de nous. Ne reste qu'à changer d'échelle. Le territoire qui nous a fait rêver au cours de notre travail et qui, nous l'espérons, vous fera rêver aussi, deviendra une alternative désirable si ses habitants et habitantes nous suivent dans ce grand pari. À travers cette vision, nous souhaitons contribuer à ouvrir nos imaginaires, à modifier notre regard, à interroger nos convictions intimes qui relèvent parfois d'attachement à des valeurs construites par le discours dominant et auxquels nous souscrivons inconsciemment. Nous n'évoquerons pas dans cet ouvrage les processus de transition et de transformation nécessaires. Ce serait un tout autre livre, pas moins utile toutefois. Nous avons décrit le point de départ, l'état des lieux, et le point d'arrivée, la vision de l'Île-de-France de demain. Le chemin à parcourir entre les deux reste à inventer et à construire collectivement. Sur l'ensemble du territoire français, Alternatiba propose dans diverses campagnes et activités des pistes d'action et des voies réalistes pour mettre en place cette transition que nous vous invitons à consulter et suivre régulièrement. Par exemple, nous avons proposé le Plan A, une série de propositions politiques concrètes. Toutefois, l'objet de ce livre n'est pas d'être un programme ou un mode d'emploi, mais une direction. Dans le débat médiatique actuel, les modalités de transformation évoquées suscitent surtout des polémiques, par exemple autour de la production énergétique, des véhicules électriques ou encore de l'innovation technologique, souvent vue comme une baguette magique. Les transformations de fond radicales qui permettraient de vivre dans un monde véritablement durable et désirable sont peu traitées. Nous pensons que ces débats, certes intéressants, ne doivent pas occulter les réflexions sur la sobriété et le changement de paradigme. C'est pourquoi il nous faut dessiner un but, un cap, une destination. Comment engager quiconque dans des changements massifs, radicaux et difficiles si les personnes ne se sont pas préalablement appropriées un récit, une représentation du monde suffisamment désirable pour qu'elles acceptent de remettre en cause leur mode de vie et leurs habitudes. Par ailleurs, de nombreux organismes publics comme privés disposent de moyens bien supérieurs à ceux d'Alternatiba Paris pour construire des scénarios de transformation, parmi lesquels nous pouvons citer le Haut Conseil pour le Climat, l'Observatoire Climat-Énergie, l'Association Négawatt, l'Institut Rousseau, Hémisphère Gauche, la Commission Prospective Environnementale, The Shift Project, etc. Notre contribution au processus de transformation est et sera essentiellement d'ordre politique et culturel. Nous poursuivrons notre stratégie de lutte non violente pour construire un rapport de force jusqu'à ce que les dirigeants politiques agissent pour l'intérêt général et ne défendent plus les intérêts d'une minorité de lobbies. Nous continuerons à sensibiliser et mobiliser la population en contribuant à la transformation des mentalités et des imaginaires. Si le financement des actions et mesures doit être traité en lien avec l'élaboration des processus de transformation, nous pouvons toutefois mentionner que les citoyens et citoyennes français et françaises et européens et européennes disposeront de ressources abondantes dès lors que l'évasion fiscale aura été éradiquée, que les indispensables réformes fiscales sur le patrimoine auront été appliquées, notamment la mise en œuvre d'un ISF climatique, et dès lors que les financements climaticides auront été réorientés vers la transition écologique. Comme nous le revendiquons depuis la création de notre mouvement, justice climatique, justice sociale et justice fiscale vont de pair. Enfin, nous avons bien conscience que ce monde de demain ne se construira pas seulement au niveau de l'Île-de-France et que les alternatives que nous portons ne prendront sens et ne seront pleinement réalisables qu'en s'articulant à des évolutions fortes et de même nature dans le reste du monde, des régions françaises voisines aux autres continents. Les institutions politiques de l'Île-de-France devront être attentives à ces évolutions et prendre toute leur place dans leur réalisation.